Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chères auditrices, mes marsouins, mes marquises, mes animaux de la banquise. Désolée pour la sortie retardée de cet épisode, mais je n'ai pas réussi à tout faire, enchaîner les dates de tournée à Marseille et l'écriture d'une première chronique sur France Inter dans l'émission Zoom Zoom Zen. Le replay est dispo en vidéo sur YouTube, tapez Rosa Burstein France Inter, le titre c'est la réinformation, moi ce que j'en dis. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire encourageant et peut-être qu'ils me rappelleront dans l'émission. Aujourd'hui, nous recevons la comédienne humoriste Bérangère Krief, dont les deux dernières dates parisiennes du spectacle Amour arrivent à grands pas, les vendredis 31 mars et samedi 1er avril au Trianon. Et comme ce titre l'indique, nous avons largement abordé le sujet de l'amour dans notre discussion, vers la fin, la question de la quête d'amour. Je suis désolée pour le petit souci de son au moment du poème, mon enregistreur a bugué. Heureusement, je fais toujours un backup à l'iPhone. Parfois, ces bugs surviennent quand j'enregistre là l'intro ou l'outro et je dois tout recommencer. J'espère donc que vous profiterez bien de ce moment avec Bérangère et moi. Bonne écoute.
Je suis fatiguée. Je t'ai écrit un petit poème, Bérange.
Ah oui.
Un acrostiche, donc en prenant les premières lettres de ton prénom et ensuite en développant. Donc tu vas.
Hop. Tellement mignon.
Bérangère.
Oh, wow. Poème pour Bérangère. Belle sur son cerceau, éternelle amoureuse, rend tout drôle et léger et musical, ne se cache pas d'être la descendante du friand surgelé, gourmande d'émotions et de projets, évidemment iconique en marladant, bref, raconte sa rupture si justement.
Et on en veut encore des histoires de Bérangère.
Merci, trop beau.
Donc, naissance à Lyon, ouais. Comme pas mal d'humoristes, en fait.
Il y a un petit vivier. La vie du café-théâtre est assez grande à Lyon, en fait, a assez d'endroits très connectés au festival, etc. Donc, il y a pas mal de gens qui se lancent à Lyon, ouais.
Alex Ramirez, Thaïs Vauquier. Mmh. Non, c'est chouette. Et t'as déjà joué à l'Espace Gerson?
Ouais.
Ah, trop bien.
Mais je crois que j'ai commencé le One Man Show. J'étais déjà partie à Paris, mais j'avais fait un duo comique.
Ah!
Ouais, avec un copain de l'école de théâtre, Rémi.
Ok.
Et on était Bérangère et Rémi.
Ok.
Et on a joué à Gerson.
Le partage.
Ouais, bien sûr.
L'amour. Un duo comique. Et c'était quoi votre histoire? Vous jouiez un couple?
Non, on jouait pas un couple. Il avait écrit pas mal de personnages. Notre tube, c'était deux animateurs hyper hystériques de...
Ok, d'un camp de vacances.
Non, de trucs, d'une chaîne pour adolescents.
Ok.
On était.
Ah, des youtubeurs déjà?
C'était un peu. Ouais, c'était avant. Hein.
Ah
c'était,
ouais.
Je te parle de ça, c'était en 2004-5.
Ouais.
Et on était. Ouais, c'était plus l'époque MCM. Tu sais, il y avait des animateurs de télé pour ados.
Ah
quoi.
Oui, de radio style.
Ah, salut les jeunes!
Ouais,
salut
Fun
les
Radio! Ouais!
Voilà.
On était. Rock!
Ouais.
Ok. Et donc ensuite, tu viens à Paris et là, tu joues au bout.
Oui. Ouais. Bah, le bout, j'y arrive par une copine d'une copine qui travaille là-bas et qui m'invite à la scène ouverte. Et tu sais, c'est ce moment où, en fait, tu rêves d'être humoriste, mais tu sais pas trop par quoi commencer.
Ouais.
Dans l'immensité parisienne. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de plateaux, c'était pas comme aujourd'hui.
Ouais.
Et je parle comme une vieille dame. Mais il n'y
avait
pas.
Le Pranzo.
Ouais, il n'y avait même pas encore.
Pas encore.
Non, pas encore.
Ouais.
Et. Et en fait, je vais voir ce plateau et donc t'as que des gens pas connus qui font des sketchs super drôles. Je me dis, ah d'accord, c'est la porte d'entrée en fait.
Ouais, ouais.
Et je me rappelle avoir passé un super moment. Et le bout est aussi une école de théâtre.
Ouais.
Et donc je m'inscris dans l'école.
Du one man show.
Voilà.
Voilà.
Et je m'inscris là en me disant, ok, je vais passer par le côté scolaire, ça me va bien. Et là, j'entre dans cette vie de café théâtre où finalement je vais faire le spectacle pour enfants, la billetterie. L'animation de la scène ouverte.
Ouais.
Je fais vraiment tous les jobs possibles autour.
Ah ouais. Tu fais ton trou au bout.
Ouais. Je pose mes trucs et puis à un moment quand j'ai bien fait le tour, et ben j'ai dit bon bah faut que j'y aille en fait là, faut se lancer.
Ah ouais, ok. Parce que donc le spectacle pour enfants, c'est toi qui l'avais écrit ?
Non, c'était dans le café théâtre, il y avait.
Ah, il y avait cette possibilité.
Ouais. Voilà, et il m'a dit il y avait un remplacement à faire pendant les vacances de Noël.
Nickel.
Et moi, j'ai trouvé ça hyper fun. De toute façon, de jouer, c'était trop fun.
Bah oui, voilà. Oui. Puis c'est une sacrée école aussi de jouer devant des enfants. Ils participent.
Ils participent ou non. Ils ou ne pas. Mentent pas.
Ah ouais. Ils disent quand ils ont compris. Tu sais que moi, j'ai fait des goûters d'anniversaire pour enfants à un moment pour cachetonner. Et donc, j'arrivais avec mon petit château, etc., que je dépliais chez les gens et tout. Alors, si vous êtes sages, les marionnettes vont venir. Et donc, t'as les tout petits qui y croient, et c'est trop beau dans leurs yeux de vraiment croire. Mais t'as les plus grands qui veulent casser la magie. Ouais. On sait que c'est toi qui tiens la marionnette.
Oh,
et c'est horrible.
Mais c'est vrai qu'il y en a quand même. La magie de ceux qui y croient, c'est vraiment très beau.
Ouais.
Ça, c'est vraiment magnifique.
C'est trop mignon.
Il faut dire qu'on est dans un café-théâtre à Pigalle.
Ouais.
À un moment, il y avait deux cafés-théâtres Le Bout. Il y avait un autre, ils avaient racheté un ancien théâtre porno.
Oui.
Et donc, on était vraiment dans le cœur de Pigalle. Et on jouait un spectacle pour enfants là.
Ouais, c'est ça, dans un ancien pipe-show. Ouais,
magique.
Ouais.
Avec vraiment les enfants, ils croyaient à tout. C'était vraiment très beau. Très, très beau. Ce mélange des styles était incroyable.
Et après, t'écris donc ton premier solo.
Ouais. En fait, moi, j'étais quelqu'un qui écrivait pas beaucoup, je parlais beaucoup, mais j'avais pas trop d'idées. Je n'étais pas une meuf qui disait « ouais, tiens, j'avais pas un imaginaire très développé ». Donc c'est pour ça que j'ai mis du temps à m'y mettre, parce que je me disais « mais qu'est-ce que je vais raconter en fait ?» Et en fait, j'ai décidé de le faire comme un saut en parachute, c'est-à-dire que j'ai pris rendez-vous avec moi-même, mais en accord avec le directeur de la salle, qui m'a donné une date. On est en janvier, il m'a donné une date en juin. Et il m'a dit, voilà, le 24 juin 2009, je te programme. Donc moi, j'ai de janvier à juin pour écrire, je n'ai rien. J'ai deux idées dans un carnet. Et là, je me dis, bon, bah, comment je vais faire ? Et je traînais à l'époque donc, au Pranzo, qui était le spot de l'humoriste en herbe
c'est
qui
ça,
se respecte.
Avec Nadia Rose.
Nadia Rose, Christine Béroux, Marine Bausson, Kian,
Gaspard Proust.
Gaspard Proust, on était tous là-bas.
Ouais.
Beaucoup de gens du Jamel Comedy Club, Yacine Edo, qui était juste en face, qui traversait la rue.
Shirley.
On était tous là-bas et on bouffait des pizzas et on jouait.
Ouais.
Et donc, moi, j'allais voir, je jouais pas encore, mais j'allais voir. Donc, je connaissais pas mal de gens et j'allais leur demander comment tu fais pour écrire.
Ouais.
Et chacun me donnait un peu sa méthode et tout ça. Et comme les gens ont entendu ce truc de « je faisais mon spectacle », en fait, je sais pas combien de personnes m'ont donné un texte.
Oh, wow.
Ah, ça, je le joue plus, j'ai pensé à toi. Ah, je t'ai écrit ça, Christine Béroux, elle m'a écrit deux textes.
Trop sympa.
Tout le monde me donnait un peu des textes et tout. Et donc, je me retrouve avec 15 textes. Metteur en scène, Johan Chabot, à l'époque, me dit, viens, on part à Nice. On avait un théâtre où on pouvait être en résidence. Et on monte ce truc qui n'a ni queue ni tête, puisqu'il y a 15 auteurs.
Mais on se rôde.
Mais on fait un spectacle.
Allez.
Et voilà. Et il donne une espèce d'unité à tout ça. Et après ça, comme je joue plusieurs fois, je rencontre Grégoire Day. Qui lui est vraiment
auteur,
punchliner et tout. Je le rencontre via Jérôme Daron qui vient me voir jouer et qui me dit je vais te présenter quelqu'un.
Il faut plus de punch.
Voilà, et je rencontre Greg qui me dit bah écoute, moi ça m'intéresse de bosser avec toi et tout. Et on a commencé à travailler comme ça. Et en fait, j'avais la sensation de ne pas avoir d'idée. Mais en fait, Greg était très fort et donc moi je parle énormément. Donc quand on buvait un café avant de bosser,
il se souvenait des anecdotes que tu lui avais racontées.
Tiens, voilà, Et il a hyper bien puisé dans mes trucs. Et en fait, du coup, j'avais pas l'impression de jouer un truc qui était complètement éloigné de moi, tu vois.
Ouais, c'était toi. Il avait capturé ton essence. Ah, c'est cool, ça, c'est un bon auteur, un bon allié.
Ouais,
Et peu de temps après, bah, il y a Bref.
Ah ouais, quasiment, bah, tu vois, 2009 en 2011.
Ouais.
Un an après, deux ans après.
Et là, phénomène, écoute, ouais. Projecteur d'un coup énorme, ouais. Tout de suite ou quand même il faut que le temps que ça s'installe, ah non, tout de suite direct d'un coup, genre, en deux épisodes, ça y est quoi.
Bah ouais, ouais, ouais. C'était le feu. Enfin, ouais. Franchement, c'était incroyable.
Ouais.
C'était fou, c'était beaucoup.
Ouais, ouais, ouais.
Mais c'était du jour au lendemain. C'est un peu les, bah, pas pareil, mais l'effet Miss France ou l'effet télé-réalité. T'es rien.
Ouais.
Et d'un coup, tout le monde te voit.
Et même plus que Miss France. Je pense que vous, on vous connaissait. Je sais même pas si tous les gens savent les visages des Miss France.
Ah, enfin, après, de toute façon, ça, c'est même pas comparable, ouais. Mais c'est ce côté ouais. Vraiment. Nous, on a tourné l'été. Oui, la l'été. Stardom. Tu sais, on a tourné l'été. Entre potes, en plus, c'était dans un truc très familial.
Ouais.
Et d'un coup, à la rentrée, dès qu'on est tous ensemble, ça devient hyper...
Tout le monde regarde.
Ouais, ouais.
Ouais, ouais. Et vous ne pouviez pas vous imaginer, quand vous avez tourné cet été-là, que ça deviendrait genre culte. Ouais.
Non. Et que 10 ans après, on t'en parle encore. Et
ouais, c'est ça. Et toi, Kian, donc tu l'avais rencontré sur les plateaux de stand-up.
Ouais.
Et c'est là où tu avais rencontré Navo aussi. Mmh. Et ben, il y avait Kyron à ouais, ce moment-là.
Ouais. Ah ouais, tout ça.
Toute cette bande.
Ce qui était sympa avec le Pranzo, c'est qu'on jouait, mais on mangeait après.
Ouais.
Donc, il y avait un côté un peu cantoche. Du coup, tu te rencontres mieux devant une 4 fromages
ouais.
Que dans des coulisses.
Oui.
Et c'est ça qui a fait vraiment la gloire de cet endroit, je crois. C'était ouais. Qu'on faisait la fête ensemble aussi.
Ouais.
Et donc, tu avais des affinités autres, amicales, qui naissaient, tu vois.
Ouais.
C'est pour ça que Kian, il
s'en est servi. Et oui, et ça se ressent quand même, et on y croit, et on sent cette bande de gens drôles, et qui ont l'air d'être copains, et qui sont copains. Et donc ça, bah, direct ensuite, le spectacle, ça te permet de passer un cap avec, de ouais. Viser tout de suite une plus grosse salle à Paris.
Ouais, d'ailleurs... En fait, ça a été très, très vite parce que tout s'est enchaîné assez vite. Même avant, bref, j'avais une première vidéo qui avait été diffusée sur le site mademoiselle.com
ah oui.
Et qui m'avait énormément fait de la lumière déjà. Donc, le spectacle était bien complet. Il y avait une émulation. Tu vois, j'avais mis du temps à faire ce spectacle. Et d'un coup, j'avais l'impression d'être à ma place. Je sentais que les choses bougeaient. Et après, donc, il y a bref. Et je change de salle. Je vais au point virgule, puis je vais au grand point virgule dans une salle de 200 places. Il y a deux salles dans le grand point virgule. Je vais dans la petite salle que j'inaugure. D'ailleurs, j'y suis retournée il n'y a pas longtemps.
Okay.
Et vraiment, j'étais la première personne à jouer dans cette salle.
Ah ouais, ouais, ouais.
Et on passe assez rapidement dans la 400, mais c'est assez difficile pour moi parce que j'ai pas assez d'expérience. Parfois, on veut que ça aille vite, mais ouais. Je sais que ça a été pour moi compliqué.
Beaucoup, ouais.
Et puis, il y a la pression de... Du succès, en fait. Finalement, ouais. c'est une step. On arrive et on fait « Ah, cool !» Et en fait, t'as peur de tomber.
Ouais.
T'as peur de pas avoir ta place. T'as peur, ouais. t'as plein de peurs qui arrivent avec ça.
Ouais.
Donc bon, faut dealer avec. Mais c'est vrai que je m'y attendais pas. Et cette salle de 400, elle était waouh. Fallait. C'est tellement en le faisant le spectacle que tu apprends que.
Ouais, puis en plus j'imagine que si c'était des fans de Bref et de Marla, il fallait faire la conversion oui. et vers Bérangère et ouais. Vers le spectacle que tu avais créé avant. Et...
Mais finalement, le spectacle que je joue aujourd'hui, il est plus teinté de Marla.
Ouais, ouais, ouais. Au ouais, final, c'est vrai.
Et c'était difficile pour moi parce que je pense que ce spectacle, c'était. Bah, c'est mon premier. On était dans une efficacité avec Grégoire. Où, voilà, il fallait que ce soit drôle. Mais moi, comme je me connaissais très mal, j'arrivais pas à dire que c'était trop. Je suis pas quelqu'un qui arrive dans une pièce et tout le monde va se marrer. Enfin, tu vois, je suis assez timide. Et j'arrive et ce spectacle correspondait à une snipeuse, à une meuf très drôle, à tu vois qui arrive, qui parle très fort et
la
tout ça.
La killeuse.
Ça peut être ça quand je suis vraiment bien avec mes potes.
Ouais.
Mais c'est quand même pas tout le temps. Et là, fallait que j'arrive devant des gens que je connais pas du tout.
Ouais.
Et je me disais waouh. Et en fait. Ça a été assez dur de mettre ce costume de cette meuf un peu
déglingue
et tout. Ouais. Même quand on m'a invité dans les plateaux et tout, j'étais, mais je suis pas cette femme. Et donc, Marla, finalement, j'étais quand même bien dans Marla. Quoi.
Ouais, il y avait un loseuse.
Truc... Oui, puis un peu plus timide, voilà.
Romantique.
Romantique. Il y avait des trucs un peu plus touchants. Enfin, ouais. Elle était touchante.
Ouais, ouais.
Et quand je regarde des épisodes et tout, je me dis, ah, mais finalement, ils avaient bien senti ouais. Kian et Navo.
Ta personnalité.
Cette personnalité-là. Ouais. Ouais.
Et à quel moment tu décides ce premier spectacle que ça y est, c'est la dernière, tu vas faire un break après ?
Bah, en 2017, donc t'imagines, ah ouais, ça fait...
Ah oui, tu l'as joué longtemps.
Ouais, ouais. Wow. Après, il a changé énormément, ouais. Et voilà, mais ouais, en 2017, je sais plus à quel moment je me dis, bon, ça y est,
on a fait le tour.
On a bien fait le tour.
Ouais.
Et je me dis, surtout, on m'avait proposé de refaire un contrat, de caler pour être sûr que tu vas refaire, ce qui est quand même super.
Mm-hmm.
Mais j'ai senti qu'il fallait que je prenne le temps. C'est ce que d'ailleurs m'a conseillé beaucoup Navo. Il m'a dit, prends le temps. Et j'ai pendant... un an déjà, je me suis dit, je vais vivre.
Ouais.
Qui je suis en dehors de mon
la
spectacle.
La scène, ouais.
Et ça, ça a été vraiment un tournant. Et je me suis rapprochée. Et surtout, bah, la vie a fait que je me connaissais pas du tout. Je savais pas ce que j'aimais. Voilà, Grégoire, il écrivait bien. Mais moi, je me disais pas, tiens, j'ai une idée. Tiens, ça, oui, ça, je peux. Alors, si on collaborait, j'étais pas non plus bénie. Oui. Mais j'avais du mal.
Ça passait pas suffisamment par toi.
Non.
Ouais.
Non,
et tu changes d'ailleurs plus d'équipe aussi pour le nouveau spectacle. Tu fais un peu table rase.
Non, parce qu'en fait, j'ai changé d'ordre en fait. C'est-à-dire que je suis partie moi toute seule. J'ai amassé de la matière. Ouais. Là, finalement, tout s'est ouvert. J'ai eu plein d'idées.
Ouais.
Donc là, j'avais vraiment noté trop de trucs.
Ouais.
Mon meilleur ami, c'est Nicolas Vital, qui est directeur artistique et metteur en scène. Qui connaît à la fois mes histoires de cœur et à la fois mon métier. Et donc, du coup, lui, il m'aide à cadrer. Il me dit, OK, on va t'aider à ranger. Il me dit ça, faut développer, nanana. Parce que, et après, on est allé voir Grégoire avec nos 92 pages. Et Grégoire a fait un résumé, a musclé un peu le texte, etc. On a rebossé ensemble et ça a fait le spectacle Amour. Mais ce que je voulais dire, c'est que, oui, je me suis rendu compte. En fait, moi, j'écrivais pas beaucoup parce que, enfin, j'écrivais, j'avais un journal, de temps en temps, j'écrivais, mais je n'ai aucune structure. Je n'ai aucun. Ça part dans tous les sens. Je vais écrire une histoire et. Tu vois, mais il y avait un truc à mettre avant. Je ne suis pas structurée. Et en fait, pendant longtemps, ça m'a fait défaut parce que je me disais que j'étais nulle. Parce que je ne savais pas faire un texte. Et j'étais toujours fascinée par les gens qui arrivent à clôturer le truc et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais par contre force de proposition et que j'avais énormément de matière et qu'on pouvait rencontrer des gens qui structurent. Et donc moi, mon équipe, elle se fait comme ça. C'est-à-dire que j'ai arrêté de m'en vouloir et du coup, je dis « Ok, bonjour, j'ai énormément de matière, qu'est-ce qu'on peut faire ?»
Comment on met en ordre mes idées ?
Oui, et du coup, c'est un peu plus powerful que de se dire « Ah, je suis nulle parce que je ne sais pas faire toute seule. »
Ouais, t'étais en fait assez complexée, quoi.
Ouais, parce que des fois, j'essayais d'écrire une histoire et en fait, déjà, j'aime mieux la parler. Donc, il faut que j'enregistre, il faut que je parle, il faut que je parle à des gens.
Ouais.
Donc, c'est un peu bizarre, tu vois. Tu peux pas prendre en otage tes amis à chaque fois que tu veux écrire un texte.
Oui, puis comme tu dis, finalement, tes premiers pas sur scène, c'était en duo, quoi. C'était pas solo, c'était une situation, c'était un perso, c'était face à quelqu'un dans l'échange. Et quand t'étais à l'école, est-ce que t'étais comme ça aussi, un petit peu éparpillée, les commentaires composés, la philo, les trois parties, tout ça, c'était pas facile.
Ouais, pas ouf. ça pique un peu. J'ai pas souvenir de la grosse galère que c'était. Mais si, ça m'encombrait, j'étais là, waouh. Et j'ai un problème de structure, quoi.
Et t'as des frères et sœurs ?
Ouais, j'ai un petit frère qui a 36 ans, mais un petit frère, et voilà.
Et lui, il est aussi dans les trucs artistiques ?
Pas du tout, il est dans le feuilleté surgelé avec mon père.
Ah ouais, ouais. Et ça, pour tes parents, justement, c'était pas... ils n'étaient pas trop tristes que tu ne veuilles pas participer à l'entreprise familiale ?
Non. Non, ça a été... En fait, j'ai fait du théâtre assez tôt, ils venaient voir le spectacle et tout, et très vite, ça s'est presque... C'était presque naturel. Ils étaient inquiets, parfois, quand, tu vois, tu bosses pas, t'es là, tu vas à tes cours, on sait pas trop ce que tu vas devenir. Ma mère me disait, mais pharmacienne, c'est sympa. Je dis, oui, bah avec mon bac L. pharmacienne, je te verrais bien, pharmacienne. Oui. Mais ils ont toujours soutenu, et en fait, j'ai toujours travaillé. Même si c'était très mal payé ou peu ou pas, je travaillais à côté, j'ai toujours bossé, quoi.
Ouais. Et ça, c'est pour le coup un truc que tu avais quand même inculqué tes parents, c'était des bosseurs aussi
Oui, de toute façon, l'histoire familiale fait que ça m'a donné la foi et la philosophie de vie de se dire tu peux partir de zéro et y arriver, puisque mes grands-parents sont rentrés d'Algérie en 47, enfin même un peu après. Et puis, ils ont ouvert un restaurant qui était à Lyon, d'ailleurs, qui était genre pourrave de ouf, qu'ils ont tout retapé.
Ça, c'est les CRIF, les parents de ton père.
Ouais. Et donc, ils ont tout refait. Puis après, c'était un bar super, un restaurant où les gens venaient. Puis après, ils ont commencé à vendre de la pâte fraîche. Il y en a, enfin, il y avait des commerciaux qui les vendaient. Tu vois, mon grand-père était hyper créatif. Tiens, oui, un petit business de ça. C'était l'époque où tu montais, on me disait, monter une affaire, tu sais.
Ouais, ouais.
Et donc, lui, il se lançait toujours dans des défis. Et puis, à un moment, il y a cette histoire de pâte fraîche où il a des commerciaux qui vont les vendre et on ramène les invendus. Et il y a un gars qui ramène jamais rien. Et mon grand-père lui dit, mais toi, pourquoi tu ramènes rien? Et il dit, bah, viens voir, je te montre. Et il lui montre un congélateur. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. Donc, il lui dit, voilà, je congèle le truc-là. Mon grand-père, je pense qu'il y a deux fils qui se touchent. Il se dit, attends, il y a un délire. Et là, il commence à imaginer une usine pour fabriquer industriellement de la pâte feuilletée surgelée. Et alors, il va te faire le truc. Il va acheter un terrain qu'il va hypothéquer avec le terrain lui-même. Enfin, tu vois, il monte tout un plan.
Un génie, quand même, des affaires.
Créatif.
Ah, créatif. Ouais.
Créatif. Et puis, prendre le risque.
Ouais.
Toujours. Et donc, il monte ce truc avec ma grand-mère.
Puis, qui le suit dans l'aventure, qui est animé par Success Story, ouf.
Et puis après, ils font ça, et puis ils ont trois enfants, et les enfants vont finir par reprendre l'entreprise.
Qui grandit,
et qui est encore en activité, ça fait 70 ans.
Oh, c'est incroyable. Et ouais,
donc j'hérite de ça.
Ouais, t'hérites de ça, une
j'hérite
flamme, quoi.
On peut rien avoir, et on peut faire, mais il faut faire. Et ça, c'est la rigueur du travail.
Ah, ça, c'est les CRIF. Et donc, tes grands-parents, des pieds noirs, c'est
ouais,
ça
ouais, ouais.
Et CRIF, c'est de quelle origine?
Du côté de mon grand-père, c'était juif pieds noirs. Mais bon, ça sonne quand même de l'Est. J'ai jamais fait de recherche poussée.
Ouais. Est-ce que ce ne serait pas polonais? Est-ce qu'ils ne seraient pas allés à l'Est à un moment, les CRIF?
Il y a eu un...
Parce avant que toi, t'es blonde, t'as une tête de polonaise.
Ouais. Mais j'ai ma tante aussi, il y a un délire.
Ah bah ouais.
Mais bon, ça
tu ressembles à ma grand-mère, tu ressembles à la mère de mon père.
Mais je pense qu'il y a un peu ça.
Ah, ça, c'est fou. Et du côté de ta mère, tes grands-parents, c'est des Français?
Alors, en fait, mes deux grands-pères sont pieds noirs.
Ok.
Mon grand-père, du côté de mon père, est juif pieds noirs. L'autre côté, c'est juste pieds noirs. Et les deux épousent une picarde et une meuf de banlieue parisienne. Deux blondes.
Ah oui.
Deux françaises.
Deux bonnes
deux
françaises. Ouais.
Et donc, il y a ce petit mélange qui se fait. Et donc voilà, donc j'ai un peu de Méditerranée, un peu de tout ça.
Ah oui, donc ton père et ta mère, en fait, finalement, ils avaient des origines assez similaires.
Oui.
Donc pieds noirs d'Algérie, les deux.
Ouais.
Et vous y êtes retournés une fois en famille, d'ailleurs?
Non. On n'y est pas.
Eux, ils portaient pas ça, le déracinement, ils avaient pas une nostalgie.
Non, j'ai jamais trop senti dans ma famille. Du côté de mon père, ils sont partis, je pense, avant. C'est les parents qui ont dû rentrer après, où ça a peut-être été plus violent, mais on n'en a pas tellement parlé. Mais eux, ils étaient déjà partis. Mon grand-père, il avait vraiment envie de partir. Donc, il avait ce truc en lui de partir en France. Et c'est comme ça qu'il a rencontré ma grand-mère dans la rue et tout.
Oui, et ça, tu le racontes dans ton spectacle. Et donc, alors, ton spectacle, donc 2017, une période de pause, de réflexion, de te dire, OK, comment je raconte moi ma vie, Bérangère, toutes mes idées. Et le thème de l'amour, est-ce que c'est genre une évidence par rapport à justement ta vie et cette rupture? Ou est-ce qu'au départ, tu avais d'autres chemins où tu te disais, j'écrirais sur autre chose?
Pour la petite histoire et rendre à César ce qu'est à César, le titre arrive à la toute fin et c'est Marine Baousson qui me le glisse et qui me dit, mais ton spectacle, c'est amour. Et j'ai trouvé ça génial et donc je la remercie. Et en fait, moi, au cours des années, donc après 2017, je vais faire vraiment un travail sur moi global. Je vais partir en voyage. Je fais comme ma charte, tu vois. Je pars écrire déjà qui je suis, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime voir, qu'est-ce que j'aime bien voir dans un spectacle, qu'est-ce que j'ai envie de dire, etc. Et je me rends compte... après mon voyage en Australie où je suis partie toute seule, je suis partie un mois toute seule sur un coup de tête en me disant là je supporte plus personne. Juste après le spectacle, je savais plus qui j'étais, la rupture, le truc, je dis bon. Et quand je rentre, moi, j'ai vécu mon voyage, il était intense et tout, mais bon, voilà, je garde un peu ça pour moi. Et j'ai plein d'amis, de potes, de connaissances qui me disent « Putain, mais il faut trop que tu me racontes ton voyage, on se voit quand ?» et tout. Et je sens une espèce d'engouement qui m'échappe un peu. Mmh. Je me dis « Mais là, je vais aller déjeuner avec une personne différente par jour. »
Pour raconter la même histoire.
Ouais. Ou est-ce que... Et en fait, tout ça est inconscient, mais je me dis « Qui je suis moi et qu'est-ce que j'ai à faire sur scène ?» C'est comme une exploratrice. Et en fait, c'est l'exploration de l'amour, des histoires d'amour qui n'ont pas marché. Et en fait, quand je suis dans une soirée que je rencontre des gens, moi, je parle énormément, mais j'aime bien écouter les histoires. Mais quand je raconte la mienne, genre « Bonjour, j'ai annulé mon mariage, j'ai morvé pendant 2 ans, je suis partie en Australie, je suis revenue. » Et en fait, j'ai l'impression de me connaître et c'est quand même super cool. Et je sens que les gens font « Ah, tu sais ce que tu m'as dit à la soirée l'autre jour, ça m'a vachement... » Et je commence, c'est très bizarre de faire ça de soi-même, mais je commence à me dire, ok, qu'est-ce que je suis pour les autres ? En fait, j'ai été voir à l'intérieur pour savoir qui j'étais pour moi et qu'est-ce que j'aimais bien faire. Et à un moment, quand je me sens un peu complète, je me dis, qu'est-ce que je suis dans le groupe ? Et je ne suis pas la rigolote, je ne suis pas celle qui fout l'ambiance, je suis celle qui raconte et qui écoute. Et qui dit de temps en temps, comme ma grand-mère, des phrases qu'on retient. Mmh. Il y a des gens qui me disent « Ah, tu sais, la phrase que tu m'as dit, que moi, je ne me rappelle même pas. Mmh. » Et je commence à noter ça. Et c'est comme ça que j'écris ce spectacle, comme une conversation où moi, je raconterais mon truc, mais finalement, ça fait appel après à toutes les histoires des gens.
Ouais.
Tu vois ?
Mais donc, pour le coup, il y a un gros changement, c'est que c'est vachement plus donc, intime que ton spectacle précédent. Ouais. Et ça... Est-ce que tu préviens la personne avec laquelle tu as rompu ? Tu lui dis, écoute, voilà, ou même pas ?
Je l'ai fait en 2 temps, parce que au tout début de l'écriture, vers 2016-2017, je commence déjà un peu à écrire des nouvelles choses. Mais je suis encore très affectée par ma rupture. Donc, c'est un peu à vif, tu sais, quand tu n'as pas de recul sur scène, tu le sens. Tu
dis, oui.
Oh là, je suis en train de régler mes comptes. Et c'est un peu... Bon, il y a un temps pour tout.
Ouais.
Et bon, après, j'en fais l'expérience. Et je commence à raconter un peu des trucs. Et je me dis, cette histoire, elle m'appartient, en fait. Et lui, je ne le préviens pas. Et lui, je suis fâchée avec lui et je ne le préviens pas. Et donc, comme il est humoriste, bon, de toute façon, on peut dire que c'est Monsieur Poulpe, hein, vu qu'on s'est outé 1000 ans après. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que lui, un jour, vient voir Baptiste Le Caplain à l'Olympia. Et moi, je fais la première partie de Baptiste avec ce nouveau texte.
Ouch.
Que je joue. Et le gars est là. Et c'est ce qu'il raconte dans son spectacle. Et c'est hilarant. Parce que le mec n'est pas du tout prêt. Et surtout, je ne lui parle pas. Donc, on n'est pas dans un processus de guérison à ce moment-là. Et donc, j'ai mis en place des choses, j'ai essayé des trucs. Et il a fallu un peu plus de temps. Et comme à côté de ça, on a commencé à... Au bout de 2 ans, 2 ans et demi, j'en ai eu marre de cette colère, en fait.
D'accord.
Et comme j'avais un peu bossé sur moi, j'ai senti que j'étais capable de dire... En fait, je ne vais pas être cette personne qui râle éternellement en disant « Vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'il m'a fait ?» J'en ai marre de ce personnage, tu vois. Et je me dis, mais en fait, si je reste là-dedans, lui, il est en mode « Ah, pardon !» Et t'es une victime tout le temps, en fait. Et donc, je l'appelle, je lui dis « Voilà, on dit que c'est OK. On dit que, voilà, c'est bon, un partout, la balle au centre. » Et on commence à se revoir, mais...
Amicalement,
on a des amis en commun, tout ça. Et ça va prendre un peu de temps, mais on construit une relation amicale. Voilà, on construit notre après. Et c'est une rupture où on n'avait pas les mots, ni lui, ni moi, pour se parler, et on a mis le temps, et aujourd'hui encore, enfin, moins maintenant, on s'est beaucoup parlé, mais les choses se sont dites, tu vois, avec le temps et tout, et c'était trop bien. C'est vraiment... on peut pas se réconcilier, je pense, avec tous ces ex.
Non.
Mais il y en a certains où c'est trop dur de couper tout. Il y a un truc où ça manque de sens, et moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis hyper heureuse, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je pense que je lui ai prévenu, oui. Au bout d'un moment, je lui dis, voilà, je vais parler de toi.
De toute façon, c'est le point de départ.
Oui,
après, ça parle de plein d'autres choses.
Ouais.
Et lui, il t'a prévenu, de ce spectacle que je n'ai pas encore vu, qu'il allait aussi...
Oui, il m'a dit, je parle de toi qui parle de moi dans ton spectacle.
Des humoristes par spectacle interposé qui font le deuil de leur relation.
Sa vision est très, très drôle. parce que parce qu'il me dit mais en fait je suis une muse.
Ah, putain.
C'est très drôle. Non mais ça m'a fait beaucoup rire, faut aller voir son spectacle, c'est vraiment et puis c'est touchant parce que effectivement voilà, on a surréussi notre rupture,
ouais.
Et notre amitié donc
voilà. Et lui il avait déjà crac-crac à l'époque où vous étiez ensemble?
Non. Moi, j'étais en rupture, c'était les recettes pompettes.
Ah, ouais.
Et après, crac-crac, on a. Je crois que je suis la première invitée de l'émission. Ah, ouais. Donc, on recommence à travailler ensemble à ce moment-là.
Et après, tu t'es dit peut-être les humoristes, j'arrête? Ou t'en as quand même retenté,
oui,
quelques-uns?
Non, c'est... ça n'a pas été.
Concluant.
Non, merci.
Comme essai.
Merci, mais non, merci. Non, mais c'est dur.
Ouais.
L'artiste torturé, c'est un peu. C'est pas facile.
Bah ouais, mais.
Mais moi, ma théorie, c'est que à partir du moment où tu te donnes totalement à toi en tant qu'artiste, que tu es vraiment l'artiste que tu veux être, tu n'as plus besoin d'aller le chercher dans le regard de l'autre.
Ouais.
C'est ma théorie.
Non, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a un truc où c'est vrai que moi, j'étais un peu au départ attirée par les artistes parce que je leur donnais l'admiration que je n'étais peut-être pas forcément capable de m'adresser à moi-même et que j'avais besoin d'admirer l'autre. Alors qu'aujourd'hui, j'ai moins besoin d'admirer l'autre. J'ai juste besoin qu'il ne me casse pas trop les couilles. mais par contre, c'est dur de rencontrer des gens avec qui tu as moins en commun. Ça peut être compliqué.
Un mec qui n'est pas du tout dans le métier.
Ouais.
C'est toujours le problème. Alors, moi, ma théorie, ça n'a rien à voir avec ça. Je pense qu'il y a des personnes qui sont à même d'accepter et de... Parce qu'on dit toujours, je ne sais pas si ça te le fait, mais on dit toujours, c'est quand même difficile d'être avec vous. Hein. C'est quand même dur. Hein. T'as envie de dire, bah oui, mais bon, je ne vais pas baisser le feu parce que, en fait, ça met mal à l'aise l'autre.
Ouais.
Et en vérité, je pense qu'il y a des gens... Moi, j'ai une copine qui est avec un mec depuis hyper longtemps. Et elle est artiste. Et lui, pas du tout. Il est dans l'informatique. Mais ce mec-là, en fait, il adore ça chez elle. Et je pense que c'est plus ça l'important.
Ouais.
C'est que le mec kiffe ta partie lumineuse et ne se sente pas écrasé, mis à l'écart. Parce que c'est vrai que c'est difficile quand t'en as un qui est dans la lumière. Tu vois, les gens te parlent, t'es derrière. Il faut quelqu'un qui est bien dans ses basques, en fait.
Ouais.
Qui soit dans la partie ou pas. Je pense que c'est surtout ça, le critère.
Bah, en tout cas, c'est sûr que donc avec Poulpe, vous étiez plus ou moins notoriété égale.
Quand on se rencontre, moi, je viens d'être dans. Bref, c'est en 2012, donc tu vois.
Donc t'étais plus connu que lui, hein, à ce moment-là.
Ouais, mais lui, il avait quand même une énorme notoriété que je connaissais pas du tout d'internet.
Ouais.
Énorme fanbase. Et en fait, tout un monde de gens.
Très à part.
Ouais. Et donc, on est reconnus tous les deux en même temps.
Ouais.
Et à l'époque, ça m'aide un peu parce que moi, je sais pas quoi faire de ça. Et juste avant, j'étais avec un mec qui n'était pas du tout connu.
Ouais.
Et en fait, j'étais toute seule dans mon truc. Et lui, il ne savait pas trop comment gérer les gens qui te parlent tout le temps et tout. Et donc, avec Poulpe, j'apprends à gérer un peu mieux ça. Mais en même temps, on est deux fois plus vus.
Ouais.
C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va quelque part... Et alors, on ne sait pas pourquoi. On a ce mystère qu'on ne comprend pas aujourd'hui. On n'a pas voulu s'afficher. On a vraiment fait en sorte, tu vois, genre quand il y avait des fans, on faisait des photos séparément.
Ah,
tu sais,
ouais.
Mais on était hyper précautionneux, comme si c'était un secret. Et en même temps, on n'a pas du tout collaboré, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment là où on est les meilleurs, tu vois. Et on n'a pas beaucoup poussé cette relation artistique, alors qu'elle était très forte. Et je pense qu'elle est d'ailleurs basée là-dessus.
Ouais.
Et en fait, ça m'a quand même aidée. Mais après, t'as ce truc de... Il y en a un qui fait des trucs, l'autre qui fait pas... Enfin, tu vois.
Oui, c'est les périodes.
De toute façon, cette notoriété pour moi, en tout cas, le succès et en tout cas, ce côté atypique de nos métiers, parce que t'es une énorme notoriété ou pas, c'est quand même un truc, tu vas faire des trucs un peu foufou. Et en fait, dans toutes mes histoires, j'ai remarqué que tu sais pas où la mettre. Je sais pas si ça te le fait. Et tu te dis, en fait, bon, bah, t'es là. Et en fait, t'es trop connu, t'es pas assez connu, tu fais trop de trucs, machin, t'es ci, t'es ça, tu parles, tu t'exposes. Et donc, tous les mecs, en fait, ne savent pas quoi faire de ça. Et c'est rare, c'est très rare. Le spécimen est rare du gars qui est content pour toi, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est dur de trouver de l'égalité. Parfois, il y a un peu de jalousie, un peu de frustration, ou au contraire, carrément de la soumission ou de l'adoration. Mais
oui, il y a l'inverse, qui est trop, ouais. Le mec est là trop pour ça, en fait.
Ouais, c'est ça.
Ça prend un peu de...
Le fanboy.
Ouais. Ça, ouais, non. Nous, et ça, c'est l'inverse des mecs connus. Ça.
Ouais.
Enfin, moi, je... ça me glace, en fait.
Ouais, ouais.
Nous, on a peur, en fait, je pense.
Bah, grave.
Ça crée pas vraiment de désir, je sais pas.
Ah non, ça, c'est clair qu'il n'y a pas un rapport d'égalité. Les mecs se disent pas... Oh, enfin, en tout cas, il y a plus de femmes, j'ai l'impression, qui sont attirées par les mecs qui sont visibles que d'hommes, que ça excite une femme
très visible. Oui, mais même... Je sais pas, mais moi, ça me faisait... J'avais vraiment pas envie d'être avec quelqu'un.
Que tu dominerais.
Et surtout, qui est là que pour mon image.
Ouais,
en fait, moi, ça me vraiment... De manière générale, quand qui que ce soit hein, dans une relation de désir ou d'amitié, quand d'un coup, je suis qu'une image, je suis qu'une comédienne ou qu'une personne connue, ça me rend immédiatement triste.
Ouais.
Je me dis, mais... On est deux humains, en fait.
Ouais.
Donc, il y a un moment où on va se retrouver quelque part. Je suis pas... J'habite sur la Terre, je vis pas dans une autre planète et tout. Et donc, du coup, j'ai jamais pu être avec un mec, tu vois, qui est complètement fasciné ou qui dit... Si ça m'est déjà arrivé de rencontrer des mecs qui disent... Bah, toi, de toute façon, c'est vrai que toi... Bah, moi, quoi ? Bah, toi, tu manges avec des couverts, hein, comme toi.
Ouais.
Bah, toi, non. Ouais. Je suis, bah non, en fait, j'aimerais bien être normale, en fait.
Ouais. Et c'est marrant parce que dans ton spectacle, en fait, on voit que assez vite, tu retombes vite amoureuse. T'as un côté un peu serial loveuse parce que, à peine sur le, je sais plus, c'est le bateau qui repart et t'es là vite et il y a un autre gars. Enfin, on sent que, et avec les chansons, que ton cœur s'enflamme. Est-ce que c'est pour le spectacle ou est-ce que, même quand même, assez rapidement après la rupture, ton cœur bat à nouveau pour d'autres personnes
Non, là c'est pour le spectacle. J'ai un peu raccourci les délais pour faire une heure et demie. Non, je dirais que quand même, cette rupture, elle me fauche. En fait, moi, mon parcours avant ça, c'est enchaîner les relations. C'est-à-dire que j'ai que des relations quasiment longues. J'ai très peu de moments de papillonnage, tu vois, depuis mes 15 ans.
Okay.
Et j'enchaîne 3 ans, 4 ans, 2 ans, nanana. Et j'enchaîne et je pars du jour au lendemain pour un autre gars. Et en fait, c'est hyper... Enfin, à part là, la rupture avec Poulpe, je me dis, jamais je pourrais faire ça. Parce que là, j'ai le cœur... c'est le cœur en miettes. Il n'y a plus de place pour rien du tout. Et en fait, je comprends que, avec le temps, que je pars toujours pour un autre parce que je veux être sauvée par quelqu'un et que je ne pars jamais pour moi. Parce que je ne me donne pas du tout de crédit. Et donc, ça fait un an que je n'y crois plus, mais que je reste. Et que je me dis, bon... Enfin, tout ça est très inconscient. Mais, et puis, j'ai très peur d'être seule. Globalement, me coucher et me dire « Donc là, j'ai pas de texto, je pense à personne, personne ne pense à moi. » C'est insupportable.
Mmh.
Donc, quand tu es une fabrique de scénarios de comédie romantique, ah, bah, tu trouves des candidats. Hein.
Ouais.
Ah, bah, ça va vite. Hein. Mais après, c'est des vraies histoires, tout ça. Mais je suis toujours un moment insatisfaite. Je dis oui, mais pas comme ci, pas comme ça. Et puis, et je deviens hyper chiante parce que, bah, en fait, tu te connais pas. Donc, tu sais pas ce dont tu as besoin. Donc, tu peux pas engueuler l'autre. Parce qu'il t'apporte pas, alors qu'il est comme ça depuis le début, tu vois. C'est vraiment le syndrome de la meuf qui change. D'un coup, tu te dis, mais pourquoi t'es pas comme ça? Bah, parce qu'il ne l'est pas depuis le début, en fait.
Et avant Poulpe, c'était d'autres artistes ou rien à voir?
Non, si, j'ai alterné.
Ouais.
J'ai alterné l'artiste. En fait, j'ai toujours oscillé parce que, je te dis, j'ai vraiment, moi, le sentiment... d'être quelqu'un de très simple. Et à la fois, je suis, suis Bérangère Krief. Du coup, pour les gens, j'ai un métier, j'ai une notoriété. Donc, en fait, je suis inaccessible et accessible. Et donc, je vais aussi avec un mec qui n'a pas du tout d'ambition, qui est juste là pour vivre, qui vivote. Un mec, après, qui a trop d'ambition, qui veut bosser, qui est machin, qui ne me calcule plus. Et donc, tu vois... J'ai un thérapeute qui m'a dit ça une fois. Il me dit, tu ne sais pas ce que tu cherches. Il m'a dit, mais tu ne peux pas trouver. C'est comme si tu pars un samedi après-midi pour acheter un truc. Tu ne sais pas ce que tu vas acheter. Ça va être très long comme recherche. Il me dit, tu vas dans un magasin de chaussures alors que tu as besoin de crayons.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra.
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Donc quoi. Et en fait, c'est ça. Si tu ne sais pas ce que tu cherches, ce dont tu as besoin profondément, ben, je pense que c'était
ça. Aujourd'hui, tu sais ce que tu cherches ?
Ouais, j'ai fait trop de stages et trop de trucs. Mais à un moment, c'était trop précis.
Ouais.
Il y a eu un moment où tu as ta liste, la liste des critères.
Ah ouais.
Celle-là, elle est intense.
Tu te souviens des premiers critères ?
Ah ben moi, il y a 15 ans, j'allais dire, c'était permis B. J'avais besoin que le mec sache conduire.
Non, ouais, mais, ouais.
J'étais sortie avec un mec qui conduisait pas, tout le temps.
Oui, oui.
Ça me saoulait. Ouais. Donc, permis B, tu vois. Bon. Après...
Cuisine ? Sache cuisiner ? Non, c'était...
Ouais, j'avais ça. Qu'est-ce que j'avais comme critère ?
Gentil ?
Bah non, ça j'ai pas... Ouais. Ça, j'ai mis longtemps à le mettre. Hein. Bah gentil avec toi, c'est la base en fait, c'est en numéro 1 en fait.
Ouais.
Gentil, profondément gentil, ça c'est remonté dans ma liste.
Ouais.
Mais après j'ai fait un stage cet été très intéressant. Non mais c'est un stage sur internet. En fait c'est okay. Un stage en Zoom.
Ouais.
Sur l'amour.
Ouais.
Qui s'appelle Ça Match. Et en fait, c'était hyper intéressant parce que j'avais appris tellement de choses. J'ai lu tellement de livres. Et je me suis regardée le nombril mille fois. Et t'es là. Et en fait, moi, je veux vraiment un mec aujourd'hui qui soit comme ci, comme ça. Tout hyper précis, chiant.
Ouais.
Et en même temps, t'y crois plus. T'es déçue. Tu te prends des tôles. Tu vois, t'es fatiguée, tu vois.
Ouais.
Et je fais ce stage, et à un moment, elle parle, elle nous dit, demain, on va faire la liste des critères, préparez votre liste. Et là, c'était hyper intéressant, parce qu'elle dit, en fait, vous avez des critères qui sont en lien avec des souvenirs passés. C'est-à-dire que tu te dis, moi, je veux un mec indépendant. Elle me dit, donc, tu veux un mec qui n'est jamais là ? Genre, il part tout le temps et tout.
Ah.
Je dis, non, mais elle me dit ça, tu veux un mec qui parte, quoi, qui a tellement d'ambition qu'il ne te calcule pas. Non, j'aimerais bien.
Ah,
non.
S'il vous plaît.
Et en fait, elle dit, en fait, ce qu'elle nous disait aussi, c'était pareil, on disait qu'il gagne bien sa vie. Et elle dit, mais elle voulait un mec, genre, qui a plein de pognon, mais si c'est un connard, c'est pas grave. Genre, il est pas gentil avec les gens, il parle mal au personnel, tout ça, c'est pas grave. Tout le monde frise un peu le nez, genre, si, quand même.
Ouais.
Elle dit, puis si un jour, il a envie de changer de voie, et pendant 2 ans, il travaille pas, il gagne pas d'argent, donc vous le quittez.
Ouais.
Elle était là, non, quand même, je vais le soutenir, quand même. Ouais. Et elle dit, en fait, vous voulez quelqu'un de passionné et autonome. C'est pas indépendant et riche.
Ouais.
Et tu vois ce que je veux dire dans les critères, comment
les
ça change.
Les bons termes, les bons mots. Ouais. Ouais, c'est intéressant, c'est malin.
Et donc, elle dit, dès que vous avez peur de revivre une situation, c'est pas le bon critère.
Ah.
Genre, moi, j'ai eu le mec qui travaillait pas, qui est collé, qui est en fusion.
Ouais.
Bah, en fait, tu dis, je veux qu'il soit indépendant. Non. En fait, je veux qu'il soit normalement constitué dans sa vie.
Qu'il soit pas dépendant affectif.
Voilà, qu'il ait un univers à lui. Moi, j'ai un univers à moi. Et,
ouais.
Et tu vois, c'est intéressant.
Ah, c'est hyper intéressant. Et ça t'a aidé, ce stage ?
Ça m'a aidé à faire la synthèse et surtout à m'autoriser à y croire encore. Parce que je pense qu'à un moment donné, tu te prends tellement de murs et tu revois ton schéma se répéter. Parce que c'est ça. En fait, je pense qu'aujourd'hui, ce dont on souffre le plus, c'est de répéter les mêmes erreurs et de ne pas comprendre comment changer les choses. Et à un moment, ça rend triste. Parce que tu te dis, mais comment je me retrouve dans la même situation avec le même type de gars, dans un truc pas cool ? Alors, j'ai l'énergie de me barrer, j'ai l'énergie de partir pour moi-même, j'ai la conscience de me dire, ça me convient pas, ok, c'est pas ce que je veux. Mais pourquoi je retombe sur le même ? Et en fait, dans ce qu'elle disait, c'était hyper agréable parce qu'elle dit, en fait, vous y croyez depuis toujours. Donc, vous y croyez à chaque fois. Et ça, c'est pas grave. Par contre, autorisez-vous à vous donner vraiment ce dont vous avez besoin et à croire que ça va se faire tout seul. Elle dit, vous cherchez quelqu'un, mais n'oubliez pas que cette personne vous cherche aussi.
Ah.
Et d'un coup, tu te déresponsabilises de tout et tu marches dans la vie un peu plus confiante et tu te dis, ça va arriver en fait, ça peut arriver. Et en fait, tu y crois, mais dans un truc moins naïf et moins comédie romantique.
Ouais.
Mais quand même, elle dit, c'est... En fait, c'est se mettre dans les bonnes dispositions pour que, elle dit, c'est comme une paire de chaussettes. Il y en a une qui va avec l'autre, quoi. Et on n'y peut rien. Et en fait, quand ça match, ça match.
Et c'est intéressant ce qu'elle dit de ne pas porter toute la charge du projet et qu'en fait, cette charge, elle est partagée et que l'autre aussi veut la relation.
Ouais. Ouais. Et d'un coup, c'est beau, non ?
Ouais.
Moi, ce stage, il m'a
t'as apaisé. Redonné espoir.
Oui, il m'a apaisé.
Ouais.
Il m'a redonné espoir. Et puis surtout, aussi, elle parle de comment tu rencontres les gens. En fait, je veux dire, on est des gens, on a un entourage, t'as des amis depuis longtemps, tu t'entretiens de relations facilement.
Mmh.
Et d'un coup, elle repart de ça. Et moi, par exemple, je parle pour moi, mais moi, j'ai des amis depuis très longtemps. Je suis quelqu'un qui entretient l'amitié, mais ça se fait un peu tout seul.
Ouais.
Genre, si quelqu'un vient pas à mon anniversaire, c'est pas grave.
Mmh.
Si toi, j'ai une amie, elle va me dire, je me sens pas, j'ai besoin de partir quelques jours, ça tombe le jour de mon anniversaire, il n'y a pas de problème.
Mmh.
Et donc, j'ai une espèce de foi dans l'amitié, et les choses se font d'elles-mêmes, et elle me dit, ça va être pareil avec la personne que tu vas rencontrer.
Mmh.
En fait, c'est ça ton rapport aux autres. Mmh. C'est pas un rapport hyper dominant avec quelqu'un où tu vas dire attends, tu vois.
Ouais.
J'ai un rapport amical avec mes amis qui est très doux.
Ah oui, je vois ce que tu veux dire, de trouver le même cool que t'as avec tes copines.
Ouais, pas dans le je projette rien en amitié.
Bien sûr.
Je projette pas de me dire Nico, mon metteur en scène, je le connais depuis 20 ans. On s'est rencontrés à la fac.
Mmh.
Quand je l'ai rencontré, je me suis pas dit, toi, tu seras mon meilleur ami pour toute la vie.
Ouais.
Et 20 ans après, tu te dis, putain, on est encore potes, on a vécu tellement de trucs, mais on est dans la vie.
Ouais.
Et les choses se font sans qu'on ait besoin de... Alors oui, il faut entretenir les choses et tout. Mais d'un coup, tu me suis dit, oui, en fait, c'est ça. C'est ça que j'ai envie. J'ai envie de rencontrer quelqu'un avec qui je suis amie aussi.
Ouais.
Tu vois, j'ai pas envie de me sentir mal avec cette personne parce que tu n'as pas des relations, tu sais, d'ego à ego, là.
Mmh.
Où t'es hyper mal, tu sais pas, t'envoies tes copines un message parce qu'en fait, tu sais, c'est quoi ? Ça, c'est, ouais. C'est pété,
c'est
en fait.
Horrible. Non, c'est l'enfer. Mais après, je pense que, en effet, en amitié, il y a peut-être moins d'ego, moins de projection, mais parce qu'il n'y a pas ce truc du romantisme
et de l'histoire.
L'histoire et du scénario qu'en effet, tu te fais toute seule avec impatience et avec des images déjà préconçues. Et c'est vrai que moi, je vois les copines autour de moi qui ont, j'ai l'impression, gèrent plutôt pas mal leur vie amoureuse. Je remarque que globalement, elles sont vachement plus pragmatiques que moi.
Oui.
Tu vois.
Oui, il y a un côté pragmatique.
Ouais, c'est pragmatique. Il n'y a pas d'idéalisme. Il n'y a pas de... Elles n'ont pas besoin de la sensation du coup de foudre. Elles ne croient pas aux papillons. Limite, il y a presque un côté... pas militaire, mais elles n'ont pas besoin de ressentir pour faire l'amour. Et elles peuvent faire l'amour sans que des sentiments naissent. Enfin, il y a un côté... et c'est cette froideur a priori avec le temps et l'habitude qui peut transformer et donner naissance à une relation où ils sont en couple, tu vois. Et moi, je suis en mode, ah ouais, mais moi, je suis à 360, quoi. Tu vois ?
Ouais, mais moi, j'entends, mais j'ai beaucoup observé les couples qui durent, tu vois, en disant... déjà, alors, vraiment, je pense qu'on n'est jamais dans la chambre des gens.
Oui.
Et que ce qui s'y passe, en fait, à chaque fois, des fois, moi, je parle, je pense que t'es un peu comme moi, c'est-à-dire que tu dis des trucs pour toi et ça libère la parole, et d'un coup, tu dis, oh, eh ben, j'aurais jamais pensé qu'elle, elle me dise ça sur son mec, sur sa relation, et que d'un coup, elle tombe le masque.
Ouais.
Mais je pense qu'on peut vivre un truc pour soi-même. Moi, je crois vraiment à ce truc de ressentir des choses et d'avoir des émotions. Mais moi, que je vais avoir en amitié.
Ouais.
Moi, il y a des gens, des amis, je les aime tellement.
Uh-huh.
Quand des fois, je suis un anniversaire, je me dis, c'est tellement beau.
Ouais.
Donc, tu vois, c'est pas, c'est une question de caractère. Mais il y a ressentir vraiment un truc et se fabriquer une histoire.
Ouais.
Et c'est cette limite que parfois on franchit et qui nous pousse dans des schémas où d'un coup on se réveille, on fait waouh, c'est hyper violent. Le film que j'ai projeté n'existe pas du tout.
C'est beaucoup plus noir. Et on est dans une cave, on est dans un garage.
Ça, oui, il n'est pas du tout ce que j'avais projeté.
Non, c'est pas la même odeur.
Ouais.
Et parfois, j'imagine cette phase, moi je suis un peu dans celle-là où. Je suis en colère contre les mecs, tu vois, parce que, en fait, justement, j'ai l'impression que mes copines, elles font des stages, elles écoutent des podcasts, elles lisent des bouquins, elles lisent des BD, elles voient des psys, genre, elles vont voir des ostéo-chamanes. Enfin, je veux dire, elles font tout le travail de déconstruction d'interrogation. Puis tu fais un date et le gars, il est là, il te balance des trucs. Mais mec, tu devrais être allongé deux fois par semaine, en fait, pour ce que tu me racontes. Et ça, parfois, ça me fatigue, tu vois. Et j'adorerais, tu vois, se dire que la charge, elle est partagée et qu'il y a en face aussi quelqu'un qui cherche une belle histoire et qui a des envies. Mais je trouve ça, j'ai l'impression que de manière systémique, quand même, parfois, j'observe un décalage. Je dis pas qu'il y a pas des mecs bien, hein. Je dis juste qu'ils sont moins.
Je vais te dire ce que la coach a dit aussi. Elle dit, en fait, on en cherche un. On n'en cherche pas 15. Mmh. Et en fait, d'un coup, tu fais... En fait, est-ce que, Rosa, ouais. tu as la foi de croire qu'il existe un homme capable de se remettre en question avec un ego bien placé qui te corresponde?
Oui, t'as raison. Faut juste se dire, ouais, voilà,
c'est ça. Pas 1000.
Non, c'est vrai.
Un, ouais. c'est pas une potentialité ouais. qui est complètement malade.
Ouais, ça se trouve. Mais c'est un peu une, comment on dit, une aiguille dans une meute de foin. Ouais.
Oui, mais c'est pas simple. Ouais. Mais ouais. en même temps, il y en a qu'un.
Ouais. C'est ce que m'avait dit mon éditeur, Laurent Beccaria. Pour moi, il m'avait dit, il y a juste besoin de lui, de là, de ça. Et en fait, une fois que ça, c'est là, pas la peine d'évaluer, de cataloguer, de juger, de se dire ah, l'intelligence de chacun. Enfin, ouais. tu vois, les sensibilités.
C'est un. Mais je comprends. C'est vrai ouais. qu'aujourd'hui. De toute façon, je pense que c'est assez saoulant. C'est vrai que t'es là, tu bosses, tu remets en question, tu mets tes organes sur une table et le gars en face n'a jamais pris le temps, ne serait-ce qu'une seconde, de se dire attends,
et moi
ouais. qu'est-ce que je projette et qu'est-ce que je propose dans cette relation
ouais.
de la merde
ouais.
peut-être que je vais changer mon schéma amoureux
ouais, ouais.
mais c'est vrai et je pense qu'ils ont le chemin va se faire par là parce que ça va être compliqué mais
puis à la trentaine il y a le décalage du désir de deux enfants aussi qui est un gros décalage entre ouais. tu vois que tu commences à avoir si tu cherches des gars avec 10 ans d'écart donc mais si jamais c'est des mecs de ton âge enfin tu vois
moi je crois vraiment qu'il faut se dire que quelles sont tes envies parce qu'après en fait c'est vraiment toujours un truc d'équilibre parce que j'entends aussi beaucoup d'histoires avec cette histoire d'enfants
ouais.
parce que comme on a des vies de gens qui ont 20 ans de 30 à 40
ouais.
En fait, d'un coup, il y a quand même ce truc de l'horloge biologique. Et j'entends beaucoup d'histoires où, au bout de 2 semaines, on est là. Donc moi, je lui ai dit que je voulais un enfant. Ouais. Lui, il m'a dit que j'étais pas du tout prêt. Et donc, en fait, on s'est séparés. Ouais. Et en fait, d'un coup, il faut s'organiser. Mais en même temps, on est ouais. comme dans un taf, tu vois. Ouais. Et il y a un truc où... En fait, c'est aussi de croire que... je sais pas... En fait, tu vas vivre une histoire avec quelqu'un. Et que du coup, là, au bout de 2 semaines, qui se projette?
Non, bien sûr.
Et en fait... Au bout de 6 mois, bah vous avez vécu tellement de trucs que tout le monde peut se dire, franchement, peut-être là, ça se fait, tu vois.
Bien sûr.
Et ouais, après, il faut être honnête avec soi ouais. en même temps. Se dire, bah non, moi, j'en veux un dans 6 mois.
Ouais.
Et en même temps, bah tu veux un enfant. Mais en fait, je crois que c'est
oui,
aussi...
C'est ton problème.
Non, mais c'est aussi la vie qui décide. Tu peux te dire, je veux un enfant demain, tu l'as dans 2 ans. Parce que en fait, ton utérus et tout le bazar a dit,
c'est clair.
Excusez-moi, en fait, c'est pas maintenant.
Ouais.
Et en fait, tout revient avec la magie de la vie.
Ouais.
Donc, on est très pragmatique. Dans la magie de la vie, avec ouais. du romantisme. Donc ça crée un bug, en fait.
Oui, et puis il y a toujours ce truc, mais hélas, où en fait, pareil, les copines qui s'en sortent, c'est pas du tout celles qui disent au bout de 2 semaines, en fait, moi je veux un enfant. C'est celles qui ont le plan, mais qui ont les stratégies. En fait, moi, c'est juste, parfois, je me dis, putain, elle est maligne. En fait, souvent, les couples où je les vois avec des couples qui fonctionnent ou des copines, elle me dit, putain, elle a réussi à le choper. Mais limite, genre, pas à l'entuber ou à lui mettre une douille, mais à faire passer son plan sans le lui dire pour que lui soit, bah d'accord, ok.
Tu crois que c'est un... En fait, moi, je pense que c'est pas forcément un plan. Je pense que... Je crois vraiment que quand tu dois te reproduire avec quelqu'un, ça arrive, en fait.
Ouais.
Je pense que c'est tellement fort, en fait, que, en fait, c'est pas du tout aussi... Enfin, c'est à la fois ouf sans l'être, et en fait, les choses sont très fluides, mais comme dans les relations amicales. Mmh. Tu vas faire des trucs, tu vas partir en vacances, ça va tout être fluide, parce que tu fais les courses et tout, c'est cool. Et donc, tu peux monter des projets de plus en plus haut, mais sans te dire, c'est un projet de malade. Tu vois, il y a un côté...
Ouais, mais j'ai l'impression que l'amitié autorise plus l'extrême sincérité, là ouais. où le couple, et notamment le début et la rencontre, le jeu du désir, tu vois, justement, de quand même se... Mais j'adorerais, ouais. tu vois, ne pas avoir à être là-dedans, à être ce personnage qui doit quand même cultiver une part de mystère, ne pas faire peur, machin, mais c'est très dur pour moi.
T'as cette sensation, là ? Moi, j'avais vraiment... Ma mère me disait, tu dois leur faire peur. Et ça, c'est un truc que je travaille encore.
Moi, j'en suis persuadée. Mais après, ils me le disent, hein, sincèrement. J'en ai plein de mecs qui me le disent. Ouais, mais de toute façon, tu parles de ta life sur scène, etc. Donc, c'est mort, quoi, en fait. Tu fais des blagues.
Et est-ce que si tu te disais... Parce que ça, c'est une croyance limitante.
Ouais.
C'est-à-dire, tu pars du principe que tu fais peur aux mecs. Ouais. Mais tu crois pas qu'il y en a un qui ouais. va trouver ça génial? Un mec bien dans ses peaux, là, et qui va te regarder, qui va dire, ça, c'est ma meuf. Elle a peur de rien, elle monte sur scène. et elle parle. Ouais. Elle raconte, elle se cache de rien. Tu crois pas qu'il y a un gars qui peut penser ça ? Si t'arrives à penser ça toi, ben je peux te dire que moi, je trouve ça, ça peut être très sexy. Putain, c'est beau !
Mais moi, je trouverais ça sexy si un mec faisait ça. Moi, j'adorerais avoir un copain qui fait des blagues où il se fout de la gueule de notre intimité, de notre couple, de moi. Je trouverais ça trop marrant.
Ben, ça existe peut-être. Hein.
J'ai pas... Mais t'as raison, pourquoi pas ? Après, Sarah Silverman, elle a trouvé ce mec-là. Rory, tu vois, à 50 balais, elle a trouvé ce mec-là. Avec ouais, qui
on souhaite avant.
Ouais, on lui souhaite avant. Mais ouais, ça a été quand même un deal. Ouais, ouais, moi. Ah bah, elle, ouais, on se souhaite, mais ça a été une petite négociation, hein, tu vois. La part de ce que tu rêvais, de machin, de OK, c'est mon métier de parler de moi, machin. Et quand même, elle a trouvé un mec humoriste qui comprend ce qu'elle fait, mais qui est moins connu qu'elle, mais qui l'admire énormément, mais qui partage ses passions.
Moi, je pense que c'est. L'autre, c'est un miroir de nous, en fait. Donc, si tu t'autorises à voir autrement. À pas te dénigrer, de dire... Mais moi, je te dis ça pour toi, même pour moi.
Ouais.
Moi, je viens d'une famille, donc mon père travaille, ma mère travaille pas, c'est une femme discrète. Moi, elle me dit, rigole pas trop fort, tu vois. Quand je danse dans des mariages et qu'elle me regarde, elle est à la fois fascinée et effrayée, tu vois.
Ah
c'est,
ouais.
on part de là. Donc moi, j'ai une double personnalité. C'est que dès que je me mets en couple, je deviens une femme. Donc je l'appelais Corinne. J'étais là... Bonjour, c'est Brigitte Bardot, tu vois. Elle fait à manger, alors que je déteste faire à manger. Mais tu vois, elle me disait, non, bah, toi, ma mère, elle a des grandes phrases. Les hommes, si tu leur fais pas à manger, ils s'en vont. Les hommes, ils se recassent hyper vite. Regarde, dès qu'ils sont veufs, ils se recassent vite comparé aux femmes. Et donc, les hommes, faut pas leur faire confiance. Donc, c'est que dans des phrases horribles. Et en fait, je suis pas du tout cette personne parce qu'au fond de moi, je crois pas ça. Et quand j'étais petite, elle me disait, par exemple, j'étais amoureuse d'un mec pendant 2 ans au collège. Mais 2 ans, je devais pas être très discrète. J'étais amoureuse de lui. Tout le monde savait que j'étais amoureuse de lui. Il ne m'a jamais regardée. Et ma mère, elle me disait, oh, tu dois lui faire peur. Et je comprenais pas cette phrase. Et en fait, j'ai envie de dire aujourd'hui, est-ce qu'on peut pas transformer tu dois lui faire peur en t'es tellement incroyable que bon, bah lui, désolé, mais t'y en as un, mais qui va trouver ça génial. Tu vois, c'est ça en fait. C'est qu'on vit avec les trucs des autres et de. Oui, bien sûr, ça peut être compliqué d'avoir quelqu'un qui raconte sa life sur scène. Mais c'est comme moi là, ça veut dire que moi, je peux trouver personne parce que je parle de mon ex. Par exemple, les ex. J'ai eu plein de mecs qui étaient jaloux de Poulpe. Tu vois
Tu consacres ton spectacle à lui et pas à eux.
Je comprends, sur le papier, je peux comprendre.
C'est rigolo.
Mais en fait, ça fait partie de mon package. Moi, je suis amie et j'ai besoin de cette relation dans ma vie et je ne ferai pas de compromis là-dessus parce que c'est OK, parce que c'est clair et parce que je suis comme ça.
Mais c'est vrai que c'est un ex intimidant. Je comprends pour les gars qui arrivent après.
Mais ça veut dire quoi que, donc, personne ne va m'aimer parce que...
Non,
mais tu vois, c'est comme si je te disais ça. Tu me dirais, mais Bérangère,
il
y a bien un gars qui est OK avec ça. C'est pareil.
Et toi, cette énergie hyper solaire que tu as dans ton spectacle et que tu as dans la vie, est-ce que c'est venu aussi avec le fait de monter sur un cerceau, de faire du sport, de reprendre possession de ton corps comme ça? Ou c'est quelque chose que tu as toujours eu? Est-ce que tu rayonnes sur scène? T'es belle, t'es très sexy, quoi, aussi. Tu vois, tu portes des tenues en velours et tout, proches, moulantes, je veux dire. Et en même temps, c'est original. Et c'est pas évident pour une femme humoriste d'être belle sur scène, quand même, je trouve que...
Ouais, je crois que, en fait, depuis le début, j'ai toujours été, dans mon premier spectacle, je me foutais à poil au début. Et puis, j'étais toujours en robe, je cachais très peu les choses. Mais je me rendais compte quand j'arrivais, par exemple, en plateau, je me disais, putain, il y a quand même 2 minutes 30 où on regarde, les filles se regardent comment t'es sapée, si tu vas leur piquer leur mec, nanana. Enfin, tu vois, il y a une évaluation physique qu'on fait pas avec les mecs. Ça, je le comparais tout le temps. Et je me disais, c'est quand même un peu chiant. Mais même moi, quand tu vois une meuf en mini-jupe, tu te dis, est-ce qu'on va voir son cul ou pas? Enfin, il y a quand même un truc où, je le fais aussi. Alors qu'un mec, il arrive avec cette chemise. Mais s'il était ultra moulax, tu vois, une fois, j'étais à l'opéra. Et je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, si la mode, c'était le collant ultra moulant, on regarderait les tubs des gars et les culs des gars à fond. Bon. Et mon rapport au corps, il a été assez complexe parce qu'en fait, j'ai pas vraiment été complexée. Et en même temps, j'ai eu besoin de le montrer tout de suite sur scène pour pas en faire cas. C'est-à-dire que je me sentais pas non plus dans une sexiness... Je me suis jamais sentie sexy... pendant longtemps, parce qu'en fait, je correspondais pas au sexy délicat, tu vois. Je suis pas grande, je suis pas mince, élancée. J'étais un peu, je suis pas potelée, mais je suis intense. Enfin, tu vois, j'ai un corps un peu musclé. Et en fait, dans le deuxième spectacle, je pense que je suis mieux parce que j'ai investi ce corps moulant, enfin musclé, dans quelque chose de moulant. Je le montre. Je ne joue pas du tout. Enfin, j'ai pas à cœur d'être sexy. Je me dis pas là, mon Dieu, je suis. Et je crois que moins je pense à l'être et plus s'échappe quelque chose peut-être de sensuel que j'accepte. Mais j'étais la meuf, il y a très longtemps, je faisais une séance photo pour une chaîne de télé. On était un peu les égéries de la chaîne, c'était dans un théâtre avec des fauteuils rouges, on était très bien habillées, très bien coiffées. Et les meufs, elles étaient dans une féminité que je trouvais très belle et tout. Et puis moi, j'étais là, un peu flattée d'être là. Et le photographe dit, bon, bah voilà, attitude un peu sexy, tout. Et vraiment, moi, il m'a dit, non, mais arrête. Ah mais vraiment, c'était très humiliant, tu sais, tu dis. Alors, plus j'essaye, moins c'est sexy. Et donc, c'est un truc qui t'échappe un peu. Et je comprends maintenant parce que je le vois chez d'autres meufs. Et je me dis, ouais, cette meuf, elle arrive, c'est la force. Moi, j'aime cette force de guerrière, meuf qui est là, qui est en place, qui a une assise, qui ne s'excuse pas d'être là. Tu vois, ça, oui, je peux le comprendre. Et après, le côté solaire, je pense que oui, quand j'étais petite, enfin... ça m'échappe et j'ai dû le dompter parce que finalement c'est très dur de se dire bon bah alors je suis la personne solaire mais bon globalement tu me fous quelque part, il y a quand même une bonne ambiance, ça c'est sûr que je préfère. Et puis ce spectacle, je m'en suis servie en me disant ok, ce rayonnement que je peux avoir dans une soirée où je vais parler aux gens et où je vais voir l'œil des meufs qui ont le cœur brisé se dire ah ouais, ah j'y recrois, ah oui, merci et tout, je me dis bon bah je vais incarner ça en fait, je vais prendre possession de cette place. Ça m'arrive d'être au fond de mon lit et d'être déprimée sa race, mais globalement ça n'a pas duré très longtemps parce que je vais ou trouver des ressources ou quoi, mais bon globalement je trouve ça quand même mieux quand le soleil brille, donc voilà. C'était très long comme réponse.
Non, c'était trop bien, c'était génial.
Bah alors attends,
on papote.
Eh ben je vais passer aux petites questions du questionnaire de Proust. La qualité que tu préfères chez un homme?
Il y en a plein. J'aime bien qu'il soit, tu sais, franc et, tu vois, intègre.
La qualité que tu préfères chez une femme?
Ah, c'est une belle question. Chez une femme, j'aime voir la force, en fait. J'aime voir le dépassement de soi. En fait, je trouve ça magnifique. Tu vois, parce que souvent, on est là, oui, mais alors, j'ose pas. Et d'un coup, tu prends ton truc et tu dis, j'y vais. Et de voir dans l'œil la guerrière, oh, ça, je trouve ça trop beau.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis?
Bah, je suis souvent très touchée par le soutien de mes amis par rapport à ce que je fais, à mon spectacle. Ils sont toujours là, même sans que je les sollicite. Tu vois, il y a vraiment un... Là, j'ai fait l'Olympia. Tu vois, j'ai reçu plein de messages de force et de soutien. Et ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Où aimerais-tu vivre?
Au bord de l'océan. Moi, je l'ai un peu fait parce que je suis partie vivre pendant toute la période Covid et tout. Comme je ne bossais plus, j'étais beaucoup là-bas. J'ai une maison sur la côte basque. Mais c'est vraiment l'endroit où d'un coup, je suis un être humain. Là, tu vois, je marche dans Paris à un moment donné où ça va, en fait.
Ouais, c'est dur. Tous les... Ouais, il faut couper.
Le son.
Ouais, le bruit.
Ouais, ouais.
Ton repas préféré?
Je veux dire coquillettes jambon. C'est vraiment la base, quoi.
Ouais.
Coquillettes jambon, une danette.
Ouais, classique.
Comfort food, un peu de gruyère. Mais si je suis un peu fofolle, je mets un peu de ketchup.
Ouh, waouh! Ce que tu détestes par-dessus tout?
Bah, la radinerie, je crois que ça me...
Terrible. Terrible.
Ça, le... Bah, tu sais, aujourd'hui... C'est pas de la radinerie, mais... Aujourd'hui, j'ai été acheter à manger dans un resto. Un resto thaïlandais. Et en fait, j'attendais. Et il y avait trois nanas devant, visiblement collègues.
Ouais.
Qui portaient, tu sais, leur ticket restaurant. Et tout était très complexe sur l'addition. Avec des à base de tapas 1,80€ et tout. Et c'était très long. Et je me le suis notifié en me disant c'était sec, tu sais, de générosité. Et quand ça a été mon tour, la nana du resto me dit Je dis, ah, c'était un peu... Elle me dit, elles viennent toutes les semaines.
Oh,
elles peuvent pas se... Dieu,
s'organiser, dire une fois c'est toi, une fois c'est moi, et c'est pas grave s'il y a 2 euros d'écart. Ah ouais, ça c'est l'angoisse. Ça,
c'est chanté, c'était... Bien sûr que des fois, je me suis dit, après, elles ont peut-être pas les moyens, puis peut-être qu'un euro 80, c'est important, et nanana. Mais il y avait un truc de...
D'énergie vitale, de truc... C'est petit, ouais, c'est pincé.
Et je chantais tout ça, et la nana me confirme, tu vois, elle me dit...
Ah ouais.
Et on pouvait plus, et elles étaient abrandissantes, leur tiki resto avec la monnaie qu'il faut rendre et tout.
Ouais, non, c'est trop.
Donc la radinerie, c'est vraiment.
Ouais, moi parfois ça m'étonne, c'est des gens que je connais pas qui disent on peut avoir des invités pour le spectacle. Je dis, bon, pas de soucis, je te mets 2 invités quand tu veux. Ah ok, bah on sera 5, je suis en mode. Ah oui, d'accord.
C'est deux, la coutume c'est deux.
Hein. 5, j'ose pas, mais je suis toujours étonnée. Parce que pour moi, quand même, derrière ça, il y a aussi un manque de savoir-vivre, tu vois.
Oui. Bah oui, tu dis 2, et puis après tu rajoutes... La coutume, pour ceux qui nous écoutent, c'est 2 invitations, on est OK. Voilà. Et après, c'est des détaxes, des places un peu moins chères.
Cher, mais pas 5 invites. Non. Ils sont ouf.
Non. Le tarif de groupe, c'est non.
Et enfin, quel est ton état d'esprit actuel?
Écoute, c'est comme, un peu comment je me sens maintenant.
Ouais, aujourd'hui, là, 17h45, mercredi.
Tout à l'heure, je marchais dans Paris. Je me disais, c'est très bien que je parte la semaine prochaine voir l'océan.
Ouais.
Ça fait longtemps. Et je suis plutôt bien dans le sens apaisée quand même dans ma vie. Ce spectacle, je l'aime. Je trouve que c'est un spectacle qui me ressemble. J'ai plaisir à le jouer. Je me dis pas, attends, est-ce que c'est trop, pas assez? J'ai l'impression d'être à ma place. J'ai des envies. Là, je vais avoir 40 ans.
Tant tu les fais pas, c'est ouf.
Bah non. Mais même moi, je me... Non, mais tu sais, j'écoutais un podcast d'une interview d'un ami qui se présente et qui dit, au début du podcast, il dit « Bonjour, je m'appelle Johan, j'ai 40 ans. » Et j'étais en train d'écouter, je fais... Moi, j'ai entendu vraiment comme s'il disait « Ouais, je m'appelle Jean-Michel, j'ai 157 ans. » Je dis « Pourquoi il dit ça ?» Mais parce qu'on a 40 ans, en fait. Et qu'en fait, j'ai rencontré il y a 15 ans. Et en fait, je suis dans l'état d'esprit de me dire « C'est génial. Tout ce que je sais aujourd'hui, à l'aube de mes 40 ans, c'est génial. Putain, quelle assise.
Ouais.
Quand je repense à mes 25 ans, et je sais pas, et je vais où, et lui, et quoi, j'ai l'impression de pas avoir d'intériorité. Et que le recul que j'ai sur ces années, c'est de... Imagine, c'est comme si à 25 ans, j'avais acheté un terrain, et qu'aujourd'hui, sur ce terrain, j'ai mis une maison.
Ouais.
Elle est solide, le sol, il bouge pas. Je connais tous les recoins, il y a des endroits trop bien dans ma maison. Mon jardin, il est super, j'ai mis des fleurs. Mmh. Et des fois, je me baladais dans ce truc. Il y a des petits oiseaux qui chantent, il y a des arbres, c'est trop bien. Et donc, je suis dans cet endroit que j'ai bâti. Et donc, t'es quand même vraiment mieux que quand t'as 25 ans, que t'as un terrain vague.
Ouais, ou 35.
Bah 35, ouais. En fait, moi, à ma rupture, j'ai fait l'acquisition du terrain.
Ouais.
Et là, j'ai dit, ok, donc là, j'ai un terrain, il va falloir que je mette des trucs dessus.
Ouais.
Parce qu'en fait, on va pas toujours miser sur l'extérieur qui, apparemment, est un petit peu
fluctuant,
instable. Et on va vraiment bâtir un truc solide à l'intérieur pour pouvoir, en cas de tempête, se rapatrier ici.
Trop bien.
Et j'ai vraiment ce truc, tu vois, de temps en temps...
C'est toi qui as acheté ta maison dans la Côte Basque ?
Ouais.
Waouh ! Ouais.
Ouais, ouais. J'ai vraiment fait ça en même temps à l'extérieur et à l'intérieur.
Ouais.
Et en fait, vraiment, de tourner les antennes à l'intérieur. Alors, je suis pas non plus... des fois, je suis pas bien. Hein.
Ouais.
Enfin, ça veut pas dire que je suis bien tout le temps.
Ouais.
Par contre, j'ai les clés pour me dire, ok, je me rassemble, je pleure un bon coup, j'évacue mes émotions, je m'arrête, je m'en veux pas. Est-ce que je vais avoir mes règles? Oui, il y a ce syndrome prémenstruel qui me fait tout remettre en question, donc tout va bien. mais je me sens donc à l'aube de mes 40 ans... plus sereine, et j'ai dit ça à une copine récemment qui les a eues avant moi.
Ouais.
Parce qu'il y a eu cette période de deuil de la jeune fille. Quand j'ai déménagé dans ma maison, j'ai vraiment pris toutes mes affaires de Paris. Maintenant, je reviens un peu à Paris, mais j'ai pris toutes mes affaires de Paris, je les ai emmenées là-bas. Et j'ai revu défiler toute mon arrivée à Paris. Et je suis cette jeune fille de 20 ans, pleine d'espoir, de rêves, qui va découvrir la vie dans la ville, qui va rencontrer des gens, qui va faire des expériences, des fois qui va aller dans des endroits. Tu vois, ce truc de... Et en fait, j'ai rangé tout ça dans des cartons en pleurant, en me disant, c'est fini, Je ne suis plus cette personne. Je ne serai plus jamais cette jeune fille innocente qui arrive. Et en fait, j'ai dit à ma copine, en fait, on dit au revoir à cette jeune fille, qu'on retrouve de temps en temps avec un bon mojito, mais quand même avec modération. Mais je dis au revoir à cette jeune fille, mais pourquoi je ne dis pas bonjour
à la femme,
à cette femme incroyable, ouais, riche de toutes ses expériences. Et je me dis, putain, vas-y, c'est... Et en fait, c'est dire bonjour, quoi.
Ouais.
Et elle m'a dit, ah, tu sais, j'ai repensé à ce que tu m'as dit. Donc, je lui ai dit ça l'année dernière quand elle les a eues, donc c'est à moi de me le dire. Donc, je suis dans ce truc de dire, oh, bonjour.
Bonjour, ouais.
Bonjour, femme.
Merci, Bérangère.
C'était deep, hein.
Ah, c'était génial, j'ai adoré. C'était trop chouette, merci beaucoup.
À toi.
Et voilà, c'était Bérangère Krief, pleine de sagesse, d'espoir et de bons conseils. En nous réécoutant, je ne sais pas si j'y crois encore tout à fait à ma description de l'amie froide et pragmatique qui ne tombe pas amoureuse. Et je n'exclus pas un jour moi-même de cesser de confondre passion et amour, souffrance et désir, manque et attirance, pour vraiment placer comme critère numéro un la gentillesse chez un homme. Je vous embrasse bien fort. Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.